une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent nos réels.
Bien le bonjour, on se retrouve donc encore une fois pour une demi-heure d'actualité coloniale, comme toutes les deux semaines. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'actualité du groupe pétrolier français Total, mais j'ai abandonné d'en faire la thématique principale de l'émission à cause de l'actualité sanglante en Palestine, où je me dis que je ne peux pas passer à côté indéfiniment. Et donc dans une deuxième partie d'émission, je vais tenter de vous donner des billes que vous n'entendrez pas dans la plupart des médias sur la Palestine. Mais d'abord, pour vous parler de Total, je vais encore et toujours m'appuyer sur le site de l'association anticoloniale Survie, dont je vous invite une fois de plus à aller consulter les textes sur Internet. Je vous lis leur résumé de cette actualité judiciaire croustillante. Le 27 juin dernier, trois associations ougandaises, Afiego, Nape, Amis de la Terre Ouganda, Tasha Research Institute et deux Françaises, Les Amis de la Terre France et Survie, ont de nouveau attaqué Total en justice en France pour son méga-projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie. On peut voir le communiqué et les dossiers de presse sur le site internet de Survie. Elles sont aux côtés de 26 personnes appelées demandeurs et demanderesses issues des communautés ougandaises qui ont subi des violations de leurs droits suite à l'accaparement de leurs terres par la multinationale et qui demandent réparation à Total. Cette action judiciaire intervient 4 ans après la mise en demeure de Total puis son assignation devant un tribunal qui visait à empêcher des violations massives de droits humains et de l'environnement. À l'époque, de premières enquêtes révélaient de nombreux risques, parfois déjà réalisés, que représentait le projet Tilenga, l'exploitation de 400 puits de pétrole aux abords du lac Albert, au nord-ouest de l'Ouganda, et le projet EACOP, un oléoduc chauffé de 1443 km traversant l'Ouganda et la Tanzanie. Mais les lenteurs de la justice et surtout l'acharnement de Total à soulever tous les points de procédure possibles n'ont pas permis d'obtenir une décision suffisamment rapide. Alors aujourd'hui, il y a demande de réparation 4 ans après, puisque les violations redoutées se sont réalisées. Cette fois-ci, ce sont des membres des communautés victimes directes de Total qui se sont saisis de la loi, devoir de vigilance, loi permettant d'inquiéter une multinationale pour les conséquences de ses activités à l'étranger. Alors que la première action judiciaire faisait appel au volet préventif de cette loi, elles activent désormais son volet réparation. Il s'agit de condamner Total à les indemniser pour les violations causées. Pour ça, il s'agit de démontrer que Total n'a pas identifié les risques relatifs à ces atteintes graves dans son plan de vigilance, n'a pas agi alors qu'elle était en mesure de les identifier avant leur réalisation, qu'elle a été alertée de leur existence et elle n'a pas mis en œuvre de mesures correctives une fois les violations survenues. Total est accusé d'avoir violé leur droit à la terre en les empêchant de cultiver librement leurs parcelles, ceci avant même de recevoir la moindre compensation pendant plus de 3 ans voire 4 ans. Les près de 118 000 personnes concernées se sont donc retrouvées privées de leurs moyens de subsistance pendant tout ce temps, subissant sous-nutrition voire famine, déscolarisation, difficultés d'accès aux soins, etc. Total avait prévu des distributions de nourriture qui ont eu lieu, mais seulement une fois les compensations versées, plusieurs années après les avoir privées d'utiliser librement leurs terres. Les distributions se sont d'ailleurs révélées insuffisantes en quantité et de qualité déplorable. Total est donc également accusé d'avoir porté atteinte à leur droit à une alimentation satisfaisante. Autre reproche à Total, la grande majorité des personnes expropriées se sont vues imposer une compensation financière là où les compensations en nature, maisons, terres de remplacement, doivent être privilégiées. Par ailleurs, ces compensations ont été largement sous-évaluées. Diana Nabiruma de l'ONG Afiego a expliqué lors de la conférence de presse du 27 juin que parfois, dans un même village, les compensations versées par Total sont inférieures à celles versées par d'autres entreprises ou même par l'État dans le cadre d'autres projets. Il est difficile d'imaginer que c'est parce que la multinationale au profit record n'en aurait pas les moyens. La responsabilité de Total est également mise en cause concernant les pressions multiples qu'ont subies les personnes affectées et les ONG. D'abord, lors du processus d'expropriation, de nombreuses personnes ont fait l'objet d'intimidations pour les forcer à signer des documents de cession de leurs terres, alors qu'elles n'en connaissaient pas ou n'en comprenaient pas toujours le contenu, ou qu'elles étaient simplement en désaccord. Des équipes de Total ou de leurs sous-traitants se sont régulièrement déplacées chez les familles avec les autorités locales, notamment la police pétrolière, créée spécialement pour ce projet, avec parfois des armes, Dans ces conditions, beaucoup ont signé contre leur gré. Aujourd'hui, lorsque des membres des communautés affectées, des ONG ou encore des étudiants se sont mobilisés contre le projet ou ont simplement voulu défendre leurs droits ou ceux des autres, les autorités ont systématiquement sévi. C'est le cas de Djelloussi Mugisha, demandeur dans l'action judiciaire, présent le 27 juin lors de son lancement. Non seulement il a subi l'ensemble des violations dont Total est accusé, mais en plus il a été arrêté et emprisonné en décembre 2019 à Kampala, à son retour de France où il était venu témoigner de son cas. Depuis, il continue de faire l'objet de menaces et doit régulièrement se cacher. Également présent le 27 juin, Maxwell Atuhura, directeur de Tasha, une des ONG parties prenantes, a été arrêté et incarcéré à deux reprises à cause de son engagement pour défendre les droits des communautés et de ses critiques contre Total. La première fois, c'était lorsqu'il accompagnait une journaliste italienne, elle aussi arrêtée puis libérée. Pour rencontrer des membres des communautés affectées, il a été accusé de rassemblement illégal. Toujours sous la menace d'une nouvelle arrestation, il a été libéré seulement sous caution, il n'a jamais récupéré son matériel de travail, qui lui a été confisqué, et continue de subir des menaces, intimidations, cambriolages, etc. Il est également demandeur à titre individuel dans cette nouvelle action judiciaire. Ces exemples, qui ne sont pas des cas isolés, démontrent à eux seuls que les arguments que ne cesse de brandir Total depuis des mois. Pour justifier son projet, la multinationale se cache derrière l'idée que c'est le choix et le droit d'un État souverain d'exploiter les ressources naturelles. Ainsi, dans ses réactions au lancement de cette nouvelle action en justice, la firme déclare s'être assurée que les filiales en Ouganda et en Tanzanie ont appliqué les plans d'action adaptés afin de respecter les droits des communautés locales et d'assurer le respect de la biodiversité dans le cadre des projets d'intérêt blablabla. Outre le fait que c'est Total qui est à l'initiative du projet, il semble clair qu'il ne résulte pas du choix de tous les Ougandais, à minima, pas dans ces conditions. C'est le choix d'un régime autoritaire auquel s'est associé Total, qui n'hésite pas à réprimer ceux qui s'y opposent ou simplement qui défendent leurs droits et ceux des autres. L'État ougandais a même attaqué en justice des personnes qui refusaient de céder leur terre à Total. La suite du texte nous montre comment la compagnie Total s'est acharnée contre vents et marées pour pouvoir continuer son projet malgré tous les problèmes et toutes les oppositions citoyennes qui ont été faites sur place ou ici. Elle affiche médiatiquement une opposition bien sympathique, disant que c'est très favorable d'avoir un débat sur le fond, mais en réalité, elle fait tous les coups en douce. Il y a une petite citation croustillante de Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total, qui est interrogé sur le renoncement des banques françaises à financer son projet pétrolier en Ouganda, et qui répond « Bon, elles font ce qu'elles veulent. Le projet sera financé largement par les banques moyen-orientales et chinoises. Je pense que les grands acteurs financiers feraient bien de réfléchir. Sur le fond, nous disons aux pays africains dont on a exploité les ressources pendant des années que nous ne financerons pas leur développement. Ils commencent à manifester leur mécontentement et le feront probablement savoir à la COP28, à Dubaï. N'oublions pas que l'accord de Paris voulait conjuguer climat et développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de climat, mais beaucoup moins de développement. Voilà pourquoi ces pays, notamment africains, se tournent vers la Chine. Et ils touchent par là la corde sensible de la concurrence des intérêts économiques chinois face aux intérêts économiques français en Afrique. Il reprend la petite musique habituelle qui reproche aux opposants de son méga-projet de s'opposer au développement de l'Ouganda et de la Tanzanie. Mais oui, tout est si simple. On ne veut pas du développement, on est anti-progrès. Quand on critique Total. Or, ce projet pétrolier consacre la destruction d'activités agricoles traditionnelles adaptées à l'environnement local, pourvoyeuses de revenus pour les familles, au profit d'une activité industrielle extractiviste polluante tournée vers l'exportation, et oui, vers chez nous, et nos petites voitures. Au-delà des paysans et des paysannes expropriées, des millions de personnes ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque leur environnement et leurs ressources vitales, notamment l'eau, sont menacés par des fuites de pétrole inévitables, d'autant plus dans une zone à forte risque sismique et de tsunami. Aujourd'hui, les dégâts environnementaux ont déjà eu lieu. Les travaux de terrassement pour la construction d'une usine de traitement du pétrole, appelée CPF, visant à séparer le pétrole, l'eau et le gaz, provenant des plateformes de forage, ont causé l'imperméabilisation du sol sur ces lieux. Depuis, en 2022 et 2023, plusieurs grandes inondations ont eu lieu, submergeant et détruisant les cultures aux alentours et créant plusieurs déversements dans le lac Albert, à plus de 8 km à l'est du CPF. Les images satellites montrent que ce sont bien les travaux de construction de l'usine qui ont causé ces inondations, d'une ampleur jamais connue auparavant, même lors d'épisodes de grandes crues. Ce phénomène a d'ailleurs été documenté dans le cadre de la nouvelle action judiciaire contre Total, et les dégâts causés font aussi l'objet de demandes de réparation de la part de certains demandeurs de redressement à Total. Et voilà, c'est un article de Pauline Pétillon que vous pouvez relire sur les sites de survie. Et vous pouvez aussi vous joindre à l'action en justice contre Total. C'est toujours assez satisfaisant. J'en avais déjà parlé, mais vous donc pouvez aller sur Internet et vous joindre comme partie civile. Total détruit l'environnement de personnes qui sont à des milliers de kilomètres d'ici pour notre confort à nous. C'est le néocolonialisme. Il ne faut pas laisser faire. Tout de suite, on écoute un petit morceau de musique traditionnelle ougandaise, justement, avec un instrument étonnant, qui est une sorte de xylophone géant qui se joue collectivement. Il y aurait énormément de choses à dire et des heures d'émission à faire, tant l'urgence est grande. J'entendais l'autre jour le chef de la Croix-Rouge internationale disant qu'il va nous falloir inventer de nouveaux superlatifs pour décrire ce qui se vit à Gaza, puisque horreur et catastrophe humanitaire ne sont plus à la hauteur. Je m'excuse d'avance de n'avoir aucune bonne nouvelle à vous livrer ici, et je sais que nombre d'entre vous préfèrent s'épargner en se disant que de toute façon on n'y peut rien. Mais je refuse cette idée. On y peut un peu. Vous connaissez cette phrase ? Pire que le bruit des bottes, il y a le silence des pantoufles. On peut boycotter des produits israéliens et même inviter les acheteurs suivants à faire la même chose à base de stickers ou d'affiches collées dans les magasins ou même parfois d'un simple marqueur. On peut recouvrir les murs de nos villes de messages de solidarité. On peut payer sur Internet des eSIMs, qui sont des cartes de téléphone rechargeables depuis l'étranger. Elles permettent aux Gazaouis de continuer à pouvoir communiquer. C'est inestimable. Le principe est simple, en utilisant des cartes SIMS internationales, les téléphones passent par-dessus le blocus de communication dû à l'opération armée israélienne. Donc n'importe qui peut mettre la main à la poche et en payer sur le net pour des Palestiniens. On peut aussi simplement porter un keffieh, mettre une affiche sur sa voiture, changer sa photo de profil Facebook. On peut aller manifester à Marseille ou Paris si l'occasion se présente. On peut soutenir l'action en justice contre Israël auprès de la Cour pénale internationale. C'est une plainte portée par l'Afrique du Sud et il est possible d'envoyer des messages de soutien pour se joindre à eux. On peut envoyer des thunes à Gaza directement par le biais de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité, qui a un site internet très bien fourni, ou bien de l'UNICEF, qui mène notamment des actions de soutien psychologique auprès des mômes. On peut patiemment continuer de s'informer pour faire le travail de pédagogie, et partager autour de nous que non, ça n'est pas une guerre comme toutes les autres. Aujourd'hui, en vous parlant, malheureusement, je n'ai que mon petit pouvoir de blablateuse de radio associative dans le fond de l'Ardèche, alors j'ai pas beaucoup d'espoir sur la portée de mes propos. Néanmoins, je peux vous rappeler que tous les samedis matins, il y a un rassemblement place du Champ de Mars à Aubenas contre les massacres perpétrés par Israël. Et que si ça sonne comme un postillon dans l'océan, tellement ça paraît ridicule de faire ça, ben c'est déjà au moins l'occasion de se sentir ensemble. Parce que demain, quand les Palestiniens et les Palestiniennes demanderont des comptes à l'humanité, nous ne pourrons pas dire on ne savait pas. Si on veut, aujourd'hui on sait. On peut voir une partie de l'horreur sur nos écrans. Ça ne peut pas nous permettre de prendre réellement conscience. La distance est trop grande dans tous les sens du terme. Et nos écrans finissent peut-être même par nous protéger un peu de l'horreur abyssale qui se déroule en Palestine. Je pense que rien ne peut permettre de comprendre ce que signifient 4 mois de bombardement, 1,5 million de déplacés, des milliers de morts sous les décombres, 30 000 autres morts dans les hôpitaux, 70 000 personnes blessées, tout le monde en deuil de quelque chose, l'impossibilité de partir de là, condamné à entendre des drones, des hélicoptères et des avions de guerre en permanence au-dessus de la tête. C'est de la torture. Mais pendant que je parle, la famine fait rage dans la bande de Gaza. La famine, c'est une mise à mort lente de toute une population, les plus vulnérables en premier. La famine, c'est atroce, d'autant plus quand on ne peut pas fuir. Pour ne pas avoir que mon point de vue, je vous propose d'écouter le son d'un court reportage de France 24 sur la situation à Gaza, c'était la semaine dernière. Selon la ligne éditoriale de la chaîne internationale française, qui produit 2 ou 3 sujets comme celui-ci par semaine, il adopte le ton le plus neutre possible. Mais la guerre finit par rendre cet exercice difficile, écoutez.
Rafah compte normalement 280 000 habitants, mais elle abrite 1 500 000 personnes aujourd'hui, dans des conditions de vie de plus en plus critiques. Les 2 principaux hôpitaux du sud de l'enclave palestinienne sont hors d'usage après des bombardements. L'armée israélienne a arrêté plusieurs personnes dans l'hôpital Nasser. Elle affirme que ce sont des combattants du Hamas. Ce dernier dit qu'il s'agit de personnel médical. MSF affirme que des patients et du personnel sont bloqués à l'intérieur. Un peu plus au nord, dans le camp de Nuseirat, une frappe israélienne a touché un bâtiment résidentiel mardi. Il y aurait au moins 12 morts.
Tout à coup, on a senti un tremblement de terre. Des missiles ou des bombes sont tombés sur le bâtiment, sous les yeux du monde entier, qui s'en soucie peu. Mon frère a été tué avec sa fille et son fils. Mes autres neveux sont encore sous les décombres.
Alors que les maladies infectieuses se propagent, la faim et la malnutrition se répandent et font craindre un risque de famine. Le Programme alimentaire mondial explique être contraint d'arrêter les distributions de nourriture dans le nord de la bande de Gaza, alors que des dizaines de milliers de Palestiniens vivent encore là.
Les derniers rapports confirment le glissement précipité de Gaza vers la famine et la maladie. La vie à Gaza ne tient qu'à un fil et le Programme alimentaire mondial se voit dans l'incapacité de pouvoir inverser la tendance. Des milliers de personnes sont désespérément affamées.
Le Programme alimentaire mondial avait suspendu une première fois ses distributions quand un de ses camions avait été touché par une frappe israélienne. Aujourd'hui, l'organisme justifie sa décision par la violence et le chaos total qui règne au nord de Gaza.
Ces êtres humains qui sont aujourd'hui confrontés à la faim sous nos yeux vivent déjà dans des conditions sanitaires affreuses que nous savons tous. Ces personnes vivent donc l'insupportable. Avoir été déplacés de chez elles, pour beaucoup perdant toutes leurs affaires, devant affronter le froid de l'hiver. Il faut rajouter à ce triste tableau que la plupart des gens n'ont plus accès à l'eau potable et boivent de l'eau salée ou souillée. Et que parmi elles, donc, 70 000 Gazaouis sont blessés. 70 000 personnes blessées. Au-delà même du soutien psychologique qu'il faudrait pour toute la population, on se doute que dans les conditions d'exode, sans hôpitaux, sans médicaments et avec les bombardements qui continuent, les personnes blessées, elles, ne peuvent pas recevoir les soins adaptés. Et ça, c'est sans compter ce qu'on appelle les morts collatérales. Des enfants juste nés qui meurent d'hypothermie parce qu'ils n'ont pas les conditions adaptées, des personnes qui ne peuvent plus soigner leur cancer, des personnes qui ne peuvent plus être en dialyse, des personnes qui ont faim, etc. Toutes ces considérations ne sont que sanitaires, médicales, matérielles, mais qu'en est-il de l'aspect humain? De la détresse, de la rage, de la tristesse. Moi, je suis restée meurtrie par la vidéo d'un professionnel de santé qui implorait. Il demandait « Pourquoi nous? Pourquoi notre terre? Qu'avons-nous fait ?» Et oui, pourquoi la Palestine? Malheureusement, l'émotion qui m'atteint ne suffit pas. Maintenant, la faim est telle que le programme d'aide alimentaire mondiale, la PAM, a suspendu ses convois vers le nord de la bande de Gaza. Et si cette information vous paraît folle et contradictoire, suspendre des convois alimentaires si tout le monde a faim, c'est parce que vous n'avez pas vu d'image récente de ce qui se passe entre ces trois murs et la mer. Les derniers convois à avoir pris la route côtière pour rejoindre au nord la ville de Gaza se sont fait encercler par des centaines de personnes, affamées et désespérées, qui ont pris d'assaut la cargaison, se la sont disputées et distribuées. Ces sacs de farine étaient inespérés pour les assaillants. L'un d'eux repart vers son campement de fortune en criant « Ça fait 20 jours qu'on n'a pas eu de farine ! 20 jours !» Dans un quotidien de privation où il n'y a plus ni viande, ni œufs, ni lait, ni même légumes, le pain est l'aliment principal de dizaines de milliers de déplacés. Mais lui aussi vient à manquer. Sur les quelques images qui parviennent à sortir de cette prison qu'est Gaza, on peut voir une petite fille pleurer il y a quelques jours, en disant que tout lui manque. La personne devant elle, qui la filme, lui demande « Quoi, par exemple ?» Et elle fond d'autant plus en larmes en répondant « Le pain, le goût du pain me manque. » C'est terrible. Et c'est vrai. On peut voir un garçon de 8 ou 9 ans qui a ramassé des mauvaises herbes sur un terrain vague et il dit honteusement à la caméra « C'est pour nourrir mon père et mes frères. » On peut voir cette mère, inquiète, qui ne sait plus comment calmer la faim de son bébé de 1 an. Elle lui tapote le dos et elle dit « Il pleure tout le temps, mais je n'ai rien à lui donner. » On peut voir ce chirurgien en larmes qui dit sa honte devant la caméra aussi. Jusqu'à ce qu'il y a quelque temps, il fuit l'hôpital Nasser où il travaillait, qui a été attaqué et mis hors de service par les Israéliens, pour venir prêter main forte à l'hôpital européen où il travaille aujourd'hui. Jusqu'à cette période, il n'a pas pu nourrir ses enfants malgré leurs supplications. Il disait que leurs supplications étaient insupportables pour le père qu'il est. La faim est partout. Et sans l'entrée de l'aide internationale, elle grandit au fur et à mesure que les stocks de chacun s'amenuisent. Joe Biden peut clamer haut et fort qu'il lutte pour faire rentrer plus d'aide quand on sait que ce sont les États-Unis qui ont versé près de 124 milliards de dollars d'aide d'armement à Israël. Ça fait doucement rigoler. Au détour de mes lectures pour préparer cette émission, je suis tombée sur un texte d'une féministe kurde. La position de cette personne est tout à fait intéressante, puisqu'elle vient questionner l'engagement des féministes européennes auprès des femmes palestiniennes, soulignant que les femmes palestiniennes vivent une situation de grande précarité, victimes au même titre que les hommes des massacres et des bombardements, mais également victimes de viols quand elles sont arrêtées. Au moins 2 cas ont été avérés. L'ONU, d'ailleurs, a envoyé un groupe de 7 expertes qui toutes ont reçu des témoignages qu'elles jugent crédibles et demandent l'ouverture d'une enquête internationale à propos de sévices sexuels subis par les femmes palestiniennes par les soldats israéliens. Mais ce que cet intellectuel turc souligne, c'est que l'absence de soins condamne aussi les femmes, enceintes et jeunes mamans, à des situations particulièrement difficiles. On a pu entendre récemment une infirmière française revenue en France déplorer la mort de très très jeunes bébés qui meurent d'hypothermie parce qu'il n'y a pas les conditions pour accueillir un nouveau-né, puisque des femmes accouchent dans des tentes de fortune dans les camps de réfugiés qui se sont montés à la hâte. Elle raconte « Il y a quelques mois, j'ai donné naissance à un bébé par césarienne faite en urgence. La simple idée que mon corps soit découpé dans une salle d'opération me terrifiait. Lors d'une césarienne, 7 couches distinctes de l'abdomen d'une femme sont découpées. Une fois les effets de l'anesthésie dissipés, je ne pouvais que penser à l'incroyable courage d'une femme qui envisage d'avoir un autre enfant après avoir enduré une douleur aussi atroce. Et pendant des mois, je ne me suis pas sentie dans mon propre corps. Après une césarienne, les médecins prescrivent des multivitamines, des analgésiques et d'autres médicaments pour prévenir les infections. Le soulagement de la douleur est crucial, non seulement pour réduire la douleur bien sûr, mais aussi parce que la mère doit allaiter son bébé et qu'elle doit être éveillée et alerte. Aujourd'hui, lorsque j'entends parler de femmes de Gaza qui subissent des césariennes sans anesthésie, mon cœur et mon âme tremblent. Le terme discrimination rend à peine compte de l'ampleur de ce que les femmes de Gaza et du reste de la Palestine doivent endurer en conséquence directe de l'occupation et du siège israélien. Cette intellectuelle féministe se dit exaspérée par les positions des féministes occidentales qui peinent à dire leur soutien particulier à des femmes vivant sous occupation dans une très grande précarité, perdant de nombreux membres de leur famille et ayant souvent à la charge continuelle de s'occuper des enfants. Elle se questionne sur l'intérêt que les féministes peuvent avoir de débattre du foulard qu'elles ne portent pas, alors qu'elles se taisent devant un système discriminatoire évident. Entre humiliation, déshabillement forcé, violence sexuelle, privation de soins pendant leur détention, les femmes palestiniennes sont, comme dans d'autres systèmes coloniaux, des cibles privilégiées. Comme l'a fait la France dans bien des pays et des guerres, notamment en Algérie. Tour à tour sexualisées, infantilisées, silenciées, violées, puis invisibiliser leur souffrance. Les femmes deviennent des armes de guerre, d'une guerre souvent morale, et d'une guerre qu'elles subissent de plein fouet. Et d'ailleurs, rappelons, à propos de la Palestine, que dans les groupes armés palestiniens qui ont mené les attaques du 7 et 8 octobre, certains ont aussi commis des crimes sexuels sur leurs victimes israéliennes. Ces violences et ces vices rappellent aujourd'hui, une fois de plus, l'utilisation du corps des femmes comme un terrain de guerre et doivent alerter notre conscience féministe pour demander la fin de l'occupation. Nous avons besoin, tous et toutes, d'un monde juste et équitable pour pouvoir vivre en paix ensemble. Histoire de femme toujours, je vous propose d'écouter l'interview d'une habitante de Gaza qui est retournée récemment vers le nord de la bande de Gaza, malgré que tout y soit détruit. Elle raconte son parcours et nous permet de comprendre pourquoi, en ce moment, des milliers de personnes font ce choix d'aller dans cette région dévastée où il n'y a aucune aide humanitaire qui pénètre.
En ce moment, de nombreux Palestiniens fuient Rafah en prévision de l'invasion imminente d'Israël. Mais lorsqu'ils retournent dans leur quartier détruit, ils sont toujours confrontés au bombardement. Voici le témoignage de Jamila Eleiwa aux médias Mondial Ways, un site d'information américain pro-palestinien. Jamila Eleiwa, 66 ans, a rassemblé le peu de biens qui lui restaient à elle et à ses deux petites filles survivantes et les a entassées dans plusieurs sacs. Cette femme âgée avait décidé de retourner au camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, après avoir appris que l'invasion israélienne imminente de Rafah était pratiquement garantie. Elle s'est résolue à quitter son refuge du moment pour éviter le massacre qu'elle savait devoir se produire. Jamila est lourdement victime de ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre. Elle a perdu 90 membres de sa famille depuis le début de la guerre, tous des parents au premier ou deuxième degré. La plupart d'entre eux sont morts lorsque leurs maisons ont été frappées par des frappes aériennes israéliennes à Nuseirat et dans le village de Zouaïda, bien avant que les zones aient été évacuées vers Rafah au début du mois de décembre de l'année dernière. Comme tant d'autres, Jamila a été déplacée d'un endroit à un autre. Elle s'est souvent arrêtée dans des abris pas du tout adaptés, tels que des entrepôts ou des magasins commerciaux, et a souffert de la faim, de la soif et du manque d'accès aux soins médicaux. La principale préoccupation de Jamila a toujours été Yara et Lara, ses deux petites filles qui ont perdu leur mère et leur petite sœur après que leur maison à Nuseirat ait été prise pour cible. Lorsque leur grand-mère leur a dit de se préparer à quitter Rafah, les deux filles ont pensé que la guerre était terminée, sans se rendre compte qu'elles passaient d'un enfer à un autre. Lorsque Jamila a fini de faire ses valises, elle a essayé d'appeler une voiture pour les ramener à Nuseirat, mais impossible de transporter leurs biens. Après de nombreuses tentatives, elle a réussi à obtenir le numéro d'un chauffeur de camion qui lui permettrait de transporter tout ce qu'elle possédait. Lorsqu'ils ont fui Nuseirat pour la première fois, ils s'attendaient déjà à une longue période de déplacement, en portant avec eux des panneaux solaires portables, des batteries, des vêtements, des matelas et des oreillers. Tout ce qui est utile et permet de survivre. Mais la guerre continue depuis, et il n'a pas été possible de s'installer vraiment quelque part. Il a été convenu avec le chauffeur du camion qu'il viendrait les chercher le lendemain et les amènerait à Nouzeïrat. Il leur a demandé 500 dollars pour le voyage. En temps normal, ce même voyage n'aurait coûté que 70 dollars, mais la guerre a tout changé. La nuit précédant le départ a été difficile, car les forces israéliennes ont pris pour cible de nombreuses maisons à Rafah et tué 150 Palestiniens, ce qui fait l'une des nuits les plus horribles pour Jamila et les filles depuis le début de la guerre. Accompagnée de perpétuelles déclarations israéliennes promettant que l'armée allait bientôt envahir Rafah, les dernières semaines ont servi à terroriser la population civile de Rafah. Des milliers de personnes ont commencé à fuir vers le nord, en direction des villes et des camps de réfugiés du centre de Gaza. La campagne de déplacement forcé a été filmée par des caméras et répétée à maintes reprises tout au long de la guerre. Mais la différence de cette dernière campagne est qu'il n'y a nulle part où fuir. De larges pans du centre de la bande de Gaza ont été rasés et transformés en champs ouverts pour les opérations de l'armée israélienne. Nous avons passé une nuit terrifiante à Rafah avant de décider de retourner dans le centre de Gaza, a déclaré Jamila à Mondo Weiss. Mes petites filles criaient lorsque les bombes tombaient près de nous. Mes deux filles ont passé une journée entière piégées sous les décombres en octobre dernier, lorsque leur sœur et leur mère ont été tuées alors qu'elles dormaient toutes. Leur maman, Wahad Abu Shouk, est morte avec sa petite fille lors d'une frappe aérienne sur leur maison. Lorsque leurs corps ont été retrouvés, on n'a pas pu retirer Judy des bras de Wahad. Ils ont donc enveloppé dans le même linceul et les ont enterrés ensemble. Lorsque nous avons entendu le même son familier que celui qu'elles avaient entendu le jour où leur mère a été tuée, aucune d'entre nous ne pouvait le supporter, poursuit Jamila. Elle n'arrêtait pas de pleurer, disant que cette fois-ci nous allions mourir, comme maman et notre sœur Judy. Jamila explique que la décision de retourner dans le centre de Gaza était principalement motivée par la nécessité de calmer Lara et Yara, qui étaient saisies de terreur à l'idée de revivre ce jour tragique. Les camps de réfugiés du centre de la bande de Gaza ne sont pas pour autant plus sûrs, car les menaces d'invasion de l'armée s'étendent également à ces zones. Jamila raconte « La route côtière de Rafah à Nouzeïrat est terrifiante, même si des milliers de personnes la parcourent tous les jours. Nous marchions sous le regard, d'un côté, des navires de guerre israéliens positionnés pas loin dans la mer. Des drones de surveillance israéliens étaient au-dessus de nous. Et le chemin fait passer par Khan Younes. Nous entendons donc le bruit des balles et des obus d'artillerie, poursuit-elle. Nous avions peur de ne pas réussir à passer de l'autre côté. » Jamila compare le moment où elle est entrée dans son quartier à Nouzeïrat à celui où elle est entrée dans une ville fantôme. « Les blocs d'habitation ne sont pas seulement détruits, ils ont été rasés au bulldozer et nettoyés, explique-t-elle. Le quartier dans lequel je vivais était transformé en champ vide où il ne restait que du sable. Il ne restait plus aucune maison. Toutes les maisons de nos voisins et des membres de notre famille ont été rasées. Et à perte de vue, il y avait des bâtiments bombardés, poursuit-elle. Certains étaient encore debout, avec seulement des étages visés. D'autres s'étaient complètement effondrés, et d'autres encore n'étaient que partiellement détruits. C'était comme une ville fantôme, et la nuit, on avait l'impression qu'il n'y avait plus aucun signe de vie humaine. Pas de supermarché, pas de boulangerie, rien n'indiquait que des gens pouvaient encore exister dans cet endroit, a-t-elle souligné. Après avoir atteint leur camp de réfugiés, elles se sont dirigées vers la maison de la sœur de Jamila, qui avait échappé au bombardement. Mais là-bas, l'accès à la nourriture et à l'eau est bien pire qu'à Rafah, où les produits de première nécessité étaient un peu plus disponibles. Jamila raconte que son fils passe la plupart de ses journées à errer dans la région avec un galon vide à la recherche d'eau pour leur famille de 13 personnes. Pourtant, Jamila considère que la lutte quotidienne pour assurer leurs besoins est préférable à l'attente de la mort à Rafah et à l'écoute de la terreur dans la voix de ses petites filles. Elle admet que la décision de quitter Rafah n'était pas nécessairement rationnelle, mais le prix à payer pour ses petites filles était insupportable. Elle pense que ses petites filles ont besoin d'un accompagnement psychologique pour gérer le traumatisme et le deuil, mais au lieu de cela, elles ont continué à être déplacées et exposées à ces conditions. Comme elle, des centaines de milliers d'enfants ont besoin d'une assistance de toute urgence, mais la guerre empêche toute action pour les aider. Aujourd'hui, la famine se fait sentir, et c'est la survie qui est en jeu. En fin de compte, nous avons échappé à la mort pour entrer dans un autre type de mort, observe Jamila. Thank you.
L'actualité nous le montre tous les jours un peu plus. Israël, pour justifier sa guerre coloniale, utilise de nombreuses fake news. Alors Israël, ça ne veut rien dire, ça peut être des civils, des personnes tout simplement sionistes qui, voulant défendre leur pays, utilisent une image erronée, antidatée ou qui vient tout simplement d'ailleurs et vont la réutiliser sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi les médias qui jouent ce jeu de ne pas vérifier leurs informations, croyant aveuglément l'armée. Ça peut être l'état-major qui diffuse volontairement de fausses informations pour brouiller les pistes et aussi tout simplement les services de communication du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui vont chercher à redorer l'image de cet homme politique en chute libre. Il y a eu récemment un bloubi-boulga de tout ça. Une information non vérifiée, un mensonge de la part de l'armée et un désir de redorer l'image du gouvernement. C'est l'histoire de la libération des deux otages. Les forces d'occupation israéliennes ont affirmé que le 12 février dernier, au cours d'une opération conjointe avec le Shin Bet et la police israélienne, elles avaient libéré deux otages détenus à Rafah par le Hamas. Après la récupération des captifs, médias et journalistes israéliens ont multiplié les récits fabuleux sur cet exploit héroïque, tandis que les généraux et les responsables israéliens se félicitaient de ce succès militaire. Mais les discordances entre les récits ont fini par soulever des questions. Enquête a été menée et des sources fiables sur place ont pu révéler la chronologie des événements de l'opération du 12 février. Et ça démonte complètement le récit de l'armée. Et oui, il s'avère qu'en fait, le 7 octobre, au jour du massacre sur le sol israélien, tout n'a pas été sous contrôle du Hamas. Pour revenir sur les faits, ce jour-là et le suivant, vous le savez, les combattants du Hamas et leurs alliés ont affreusement massacré plus de 800 civils et ont tué, lors de combats, plus de 470 soldats et policiers israéliens. Les attaquants venus de Gaza ont passé le mur en nombre après avoir fait pleuvoir des roquettes, submergé le système de défense israélien sur des points stratégiques et ont ainsi fait s'effondrer la frontière qui entoure Gaza. Après la destruction de la barrière de séparation à Gaza, l'effondrement des défenses israéliennes, des bases militaires et des implantations israéliennes, ainsi que la capture de soldats de l'occupation israélienne par la branche armée du Hamas, des civils palestiniens ont eux aussi passé le mur. Profitant du chaos, certains sont entrés dans les colonies israéliennes proches de l'enclave assiégée et ont kidnappé des civils. Ceci n'était pas prévu par le Hamas et ça a compliqué et fausser le décompte des otages par les factions de la résistance. Il y a donc eu des prises d'otages qui ont échappé à tout contrôle, qui ont échappé à une planification, qui ont surtout échappé au Hamas. Ont enlevé Fernando Simon Marman, 60 ans, et Luis Aar, 70 ans. Les captifs ont été emmenés dans une maison de Rafah, où le chef du clan familial les a placés sous la protection de sa famille. Il semblerait que trois personnes ont été chargées de les nourrir et de les soigner. Pour assurer leur protection, la fratrie les a déplacés d'un endroit à l'autre, tandis qu'Israël menait son offensive militaire sur Gaza. Mais le chef du clan est mort à Khan Younis en janvier, et les trois cousins se sont retrouvés apparemment seuls pour s'occuper des captifs. Ils ont fini par les installer dans une maison du camp de réfugiés de Chaboura. Là, Luis Aar, l'un des captifs, a pu manipuler et soudoyer ses geôliers en leur promettant de l'argent et tout ce qu'ils voulaient en échange de sa libération. Les Palestiniens, qui n'étaient pas des soldats formés, il faut le rappeler, ont fini par se laisser convaincre et ont appelé la fille de l'otage, Luis Aar. Cette dernière a alors établi un canal de communication avec les trois hommes et a multiplié les échanges téléphoniques, évidemment tous écoutés par les services de renseignement israéliens. Un accord a finalement été conclu selon lequel les trois hommes recevraient une somme d'argent en échange de la libération des otages et quittaient Gaza pour l'Égypte puis un pays européen. Une négociation par téléphone sur écoute, digne d'un film policier, tout ça pendant que les bombardements continuaient autour. Alors, selon l'accord conclu entre les trois cousins et la fille du captif, les Palestiniens devaient amener les deux otages jusqu'à l'extérieur de la bande de Gaza, ça on ne sait pas comment ils l'auraient fait. L'un des trois devait se rendre quelque part dans les environs de Rafah, où la fille du captif devait lui donner de l'argent. Une fois l'argent en poche, il devait appeler les deux autres pour confirmer qu'ils pouvaient conduire les otages à l'endroit où ils seraient enfin relâchés. C'est la date du 12 février à 1h du matin qui a été fixée. Évidemment, c'était un piège, puisque grâce aux écoutes téléphoniques, les services de renseignement israéliens ont localisé la maison où étaient détenus Aar et Marman. Au moment où le Gazaoui qui devait rencontrer la fille du captif est arrivé à l'endroit convenu, l'armée d'occupation, elle, a lancé une attaque brutale sur toute la ville de Rafah. La ville a été bombardée de toutes parts cette nuit-là pour faire diversion. L'armée israélienne a récupéré les otages dans une maison peuplée de civils, là où elle dit qu'elle s'est heurtée à des factions armées. Cette histoire a donc été inventée de toutes pièces. Il n'y a pas eu combat, ni Hamas, ni résistance. Et si on ne peut qu'espérer que toutes et tous les otages retrouvent la liberté le plus vite possible, car personne ne devrait vivre cet enfer, il faut tout de même observer l'utilisation par Israël de cette affaire. L'occupation a inventé une fable d'une opération complexe et rationnelle pour faire croire qu'elle avait accompli un exploit et redoré le blason de son armée. D'ailleurs, tout le monde semble s'être parfaitement accommodé, que ça a été au prix du massacre de plus de 100 civils palestiniens par les bombardements de diversion, auxquels s'ajoutent des dizaines de blessés. Aujourd'hui, le bilan est là. Israël n'a réussi à récupérer aucun otage aux mains du Hamas au cours de son offensive militaire, qui dure depuis 4 mois. Il faut donc questionner aujourd'hui plus que jamais l'offensive militaire qui serait justifiée pour récupérer les otages. Les seuls otages qui ont été libérés l'ont été lors de négociations. De nombreuses familles d'otages réclament aujourd'hui des négociations et le Hamas se dit prêt à discuter sur des conditions qui n'ont pas l'air irréalistes. Un cessez-le-feu permettrait également l'entrée d'aide humanitaire, notamment des médicaments, de l'essence pour faire fonctionner les hôpitaux et de la nourriture. La vie de centaines de milliers de personnes est en jeu et si l'armée israélienne s'obstine, c'est qu'elle n'a que faire de ses vies. Quand le gouvernement Netanyahou clame que cette offensive militaire permettra d'éradiquer le Hamas, ils savent pertinemment que c'est faux. Le Hamas, ça n'est pas qu'un mouvement armé, c'est un parti politique avec des partisans. Et en ce moment, il n'en a jamais eu autant. Puisque quel est le mouvement politique qui propose la libération des Palestiniennes, Palestiniens, la libération de leurs terres, de retrouver leurs droits? C'est le Hamas. Donc actuellement, c'est une source d'espoir pour des milliers de personnes, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et les gens qui sont en train de vivre aujourd'hui ces massacres, ces deuils à répétition, ces destructions massives, n'auront pas beaucoup de lueur d'espoir demain si on leur refuse le droit à l'autodétermination. Le Hamas semble donc constituer aujourd'hui une alternative politique pour des personnes qui ne vont pas avoir le luxe de critiquer le fascisme qui gangrène ce mouvement politique, l'antisémitisme bien trop présent dans ses bases idéologiques, le sexisme et l'autoritarisme dont il a fait preuve depuis des dizaines d'années, l'asphyxie que vit la population palestinienne empêche de prendre du recul pour s'armer d'une critique et proposer autre chose. Aujourd'hui et demain sûrement plus encore, le Hamas représente une alternative pour une partie de la population palestinienne. C'est sur cette base que le gouvernement de l'autorité palestinienne a déclaré, depuis le début de l'offensive, qu'il voulait la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens qui travaillaient avec Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, demandaient à ce qu'il y ait, comme il y a eu en 2005, des élections qui permettent à des gens de toute la Palestine historique, donc de Gaza, de Cisjordanie et de Palestine 48, de Jérusalem, de se porter candidat, de venir exposer un programme politique et de constituer ensemble un gouvernement d'union nationale qui permettrait de représenter toutes les tendances politiques des Palestiniens pour faire de l'union et ensemble avoir un projet politique pour la Palestine. Cette demande a été inentendable pour Israël et donc Israël a fait pression, ainsi qu'à les États-Unis, sur Mahmoud Abbas, qui n'a en réalité pas du tout les mains libres. Mahmoud Abbas lui-même a demandé la démission. Donc ça a fait grand bruit il y a quelques jours, la démission du gouvernement dans son entièreté. Ce n'est pas de son fait. Ça date de début février et c'est bien parce que le Premier ministre a exprimé le souhait d'un gouvernement d'union nationale. C'est bien à la demande du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, que tout le gouvernement a démissionné. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient remplacés dans la journée même. Le nouveau gouvernement qui travaille à l'autorité palestinienne, qui sont des technocrates, donc, et non pas des hommes politiques qui viennent de mouvements populaires, de mouvements politiques, ces hommes-là vont travailler de façon assumée pour ne pas aller à l'encontre des intérêts israéliens. Ça, c'est une dimension que les médias n'explicitent pas et qu'il faut bien retenir. Le nouveau gouvernement de l'autorité palestinienne ne représente pas les Palestiniens. Petit 1, n'a pas été élu. Petit 2, a été choisi pour plaire à Israël. Petit 3. Je vous parle de la politique au Moyen-Orient et peut-être que vous n'en avez rien à cirer. Mais c'est l'histoire contemporaine qui est en train de s'écrire sous nos yeux. Je sais comme il est compliqué de comprendre l'actualité internationale, de remettre dans son contexte, de se souvenir du nom des hommes politiques d'autres pays que le sien. Je sais aussi que nous n'avons pas été habitués à cette gymnastique du tout. Et pourtant, quand j'ai voyagé par moi-même, notamment en Afrique de l'Ouest, tout le monde connaissait le nom du Premier ministre et du Président. Je mets au défi la plupart de mes compatriotes de dire qui est aujourd'hui à la tête du Mali, de la Côte d'Ivoire et encore moins de nommer un de leurs ministres. Mais il se trouve que ce qui se passe en Palestine, encore une fois, ça n'est pas juste une guerre comme une autre. Jamais il n'y avait eu un siège pareil, privant une population d'eau potable et de nourriture. Jamais autant de journalistes n'étaient morts, jamais autant de membres de l'ONU. Jamais, dans le nombre de morts, le ratio enfants avait été si élevé, etc., etc. Bref, ça n'est pas une guerre comme une autre, d'autant plus que c'est une guerre coloniale que l'on fait passer pour une guerre de défense. Je rappelle à cette antenne que la position du président Emmanuel Macron qui dit qu'Israël a le droit de se défendre n'est qu'une opinion et non pas un fait avéré. Israël est un État colonial, on peut considérer, si on le soutient, que c'est un droit de continuer l'agression coloniale, on peut tout autant considérer que les colonisés ont le droit de se défendre, de récupérer leurs terres, et que rien ne saurait justifier l'apartheid et les actions armées qu'ils subissent. Pour terminer à propos de la Palestine, j'aimerais vous parler d'Aaron Bushnell. Vous avez peut-être entendu son nom. Aaron Bushnell était un jeune militaire états-unien. C'est donc pas quelqu'un qui était fondamentalement antimilitariste et contre l'armée. Ça n'aurait peut-être pas été mon camarade a priori. Il travaillait depuis près de 4 ans pour l'US Air Force, l'aviation américaine quoi. Plus précisément comme ingénieur dans l'intelligence informatique. Ce 25 février, il y a quelques jours, Aaron Bushnell s'est tué en s'auto-immolant devant l'ambassade israélienne à Washington. Il a filmé son acte et donc sa mort. La vidéo est tout à fait poignante. On le voit, quelques secondes avant l'acte, en train de marcher vers l'ambassade. Et sur cette vidéo qu'il a diffusée en direct, il dit des paroles très fortes. Il dit qu'il ne peut pas être coupable d'un génocide, qu'il s'apprête à faire un acte extrêmement fort, mais comparé à ce que les Palestiniens vivent sous occupation, ça n'est pas si fort du tout. Il se met de l'essence, craque une allumette et crie « Free Palestine » en hurlant jusqu'à la mort. Cet homme de 24 ans s'est donc tué sous les yeux de sa caméra, un acte de solidarité extrêmement fort avec les Palestiniens. Quelques heures avant, sur Internet, sur Facebook, ce jeune homme a écrit « Beaucoup d'entre nous se demandent qu'aurais-je fait si j'étais vivant du temps de l'esclavage ou durant la ségrégation raciale aux États-Unis ou durant l'apartheid. Que ferais-je si mon pays était en train de commettre un génocide ?» La réponse est « vous le faites en ce moment même ». Ce terrible acte d'auto-immolation aux États-Unis est le deuxième depuis le début de l'offensive militaire par Israël, rappelle à quel point les États-Unis soutiennent financièrement et militairement l'État israélien dans sa guerre contre les Palestiniens. Je voulais rendre hommage à ce jeune homme, à son acte, parce que je me dis que pire que de mourir à cause de cette sale guerre, il y a à mourir dans le silence et le déni total. Alors voilà, je voulais au moins qu'on se souvienne de son nom. Il s'appelait donc Aaron Bushnell. Sur toutes ces joyeusetés, c'est la fin de notre émission. Là, vous devez être soulagés. Ouf. Et malheureusement, ça n'est pas parce que je me tais que tout ça s'arrête. Je vous rappelle le rassemblement le samedi matin à Aubenas, place du Champ de Mars. Si vous voulez vous joindre à quelques personnes qui défendent des idées antimilitaristes et anticoloniales pour libérer la Palestine. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles actualités de la politique coloniale qui règne sur cette planète, malheureusement. D'ici là, j'espère bien que la révolution aura eu lieu et que mon émission n'aura plus lieu d'être. Alors, dans 2 semaines, promis, ma recette de cookies au flocon d'avoine, puisque je n'aurai rien d'autre à raconter. Portez-vous bien, gardez les oreilles ouvertes.
Thank you.